Je me présente, Michel Bois, je suis responsable du service formation de l'INRP. C'est quoi notre travail? Eh bien, c'est de donner un coup de main aux équipes de la maison qui cherchent à faire, le terme souvent employé, c'est transfert, mais j'aime pas trop ça parce que c'est pas du tout comme ça que les choses se passent en réalité. L'INRP, alors, fait de la recherche, bien sûr, et essaie de mettre en place, et réussit au moins pour partie, des zones d'interface avec, sinon le terrain, qui est aussi un terme un peu galvaudé, en tout cas les gens qui travaillent à la formation d'enseignants un peu partout sur le territoire. Alors, c'est un panorama assez divers parce que ça va effectivement de choses qui sont liées au TIS, ces grosses équipes qui s'appellent EDUCTIS d'ailleurs, à des choses qui sont liées à la politique de la ville, c'est le centre Alain Savary, ou à, je dirais, des formations plus étroitement didactiques, puisque nous avons aussi de bonnes équipes de didacticiens. Nous sommes là dans une des configurations qui me paraissent porteuses pour l'INRP, c'est-à-dire que l'INRP, non pas vient au secours, mais apporte son soutien, participe d'ailleurs d'une autre manière à une opération nationale qui est montée par la SDTIS, dont Geneviève Lameule en parlera tout à l'heure, hein, je ne vais pas m'étendre. Et donc, il y a un moment où, en l'occurrence, c'est uniquement pour ce qui concerne les mathématiques, mais nous avons en projet, peut-être Geneviève vous en parlera tout à l'heure, une autre formation, je dirais plus large, qui aurait lieu sans doute en décembre prochain. Il s'agit donc de se retrouver, de mettre en place un travail qui aura lieu par échange à distance, je dirais c'est le minimum s'agissant, alors je ne sais pas si on peut parler d'isomorphisme, mais c'est bien quand même que les gens qui conçoivent des formations à distance, qui s'intéressent à la méthodologie de ces formations, soient en mesure de travailler à distance. Je crois d'ailleurs, pour avoir vécu un certain nombre d'épisodes, y compris dans cette maison, que c'est le véritable enjeu, c'est-à-dire que ce rendez-vous, formation de formateurs si l'on veut, sera réussi si l'entre-deux est réussi, et je crois que ça c'est à peu près au courant, c'est pas si facile que ça. Jusqu'à présent, on n'a pas été très très bon, je dirais, à l'INRP là-dessus, mais je fais tout à fait confiance à l'équipe EDUCTIS, là, à Sophie, à Luc, etc., pour mener à bien cette entreprise-là. Il nous reste à vous souhaiter donc un bon travail, une bonne intercession, et puis, bien sûr, nous nous retrouverons le 13 mars prochain, si je n'ai pas travesti la date, c'est bien le 13 mars, donc pour faire le bilan, et puis pour voir si les choses ont un petit peu avancé entre-temps. J'ai eu quelques problèmes techniques là au démarrage, mais ça prouve simplement qu'une maison comme l'INRP n'échappe pas complètement à ce que j'ai envie d'appeler d'un terme générique la bureaucratie. Bon, on n'est pas complètement exempté, même si nous sommes un outil de recherche pédagogique. Bon, ça ne suit pas toujours. L'intendance ne suit pas toujours. Mais je pense que c'est réglé. Donc, bonne journée à vous, bon travail, et rendez-vous, bien sûr, au 13 mars.
Bon, juste quelques mots, puisque Michel a dit l'essentiel. Je dirais qu'il y a trois raisons pour l'équipe éducation et TICE, font de cette formation quelque chose d'important. D'abord, elle s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement profond des dispositifs de formation, et c'est l'enjeu du dispositif performance dont on parlera plus loin. Ensuite, c'est une formation qui se passe dans un cadre de partenariat fort entre l'INRP et le ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, c'est une formation qui est directement liée à une recherche. Et la recherche, elle est au milieu du guet. On a une convention de recherche avec le ministère, enfin avec la SDTIS. Quand je dis « on », c'est l'INRP, mais aussi d'autres équipes. Il y a deux IREM qui sont impliquées, l'UFM de Bretagne, le CREAD, équipe de recherche bretonne. Et il s'agit pour nous de concevoir des parcours de formation avec l'idée que ces parcours ne peuvent pas être livrés une fois pour toutes, ce qui est vrai pour les parcours de formation pour les formateurs, mais ce qui est vrai pour les ressources pédagogiques en général. Donc des parcours ont été conçus en relation étroite, déjà avec une première mise en œuvre, à la fois à Montpellier et à Rennes. Ces parcours ont été mis en ligne. Ils ont été évalués, on peut dire, favorablement par les experts qui ont été mandatés par la SDTIS. Pour nous, cette expertise était un moment dans la vie de ces parcours. On est déjà allé un peu plus loin, puisque après cette expertise, les deux équipes de concepteurs ont repris leur métier, repris leur chantier, plutôt, pour voir ce qui, dans les conseils qui étaient donnés, permettait d'améliorer le parcours. Et puis maintenant, ces parcours de formation vont être vraiment mis en œuvre par des formateurs qui, eux, ne les ont pas conçus. Et on verra dans cette nouvelle année qui s'ouvre maintenant et qui est très importante pour nous, comment ces parcours, non pas sont bons ou mauvais, mais comment ils peuvent s'enrichir à nouveau de l'expérience des formateurs qui vont les mettre en œuvre, et puis quels outils on peut intégrer dans ces parcours pour qu'ils participent de ce dialogue permanent entre les concepteurs et les utilisateurs. Voilà, donc bonne journée. On est très intéressés par ce qui se passera. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais je pense que c'est pas très étonnant parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Pour les concepteurs, il y a un véritable enjeu. Donc les concepteurs des parcours sont là. Pour les formateurs, est-ce que c'est possible de s'approprier un parcours qu'on n'a pas soi-même conçu? Ce sont des modes professionnels pour les formateurs qui ne sont pas courants. Donc on se situe là à l'amorce d'un processus de renouvellement des dispositifs de formation. Et donc quand on est à l'amorce d'un mouvement, c'est toujours des situations très intéressantes. Voilà, bonne journée. Et puis bonne formation entre aujourd'hui et puis le printemps.
Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Souris-Lavergne. J'ai un peu organisé la formation avec
Pourquoi
Luc.
Un peu tu as organisé?
Et en tout cas, j'ai interagi avec plusieurs d'entre vous un peu plus directement. Donc, je vais vous présenter un peu le déroulement de la journée d'aujourd'hui et puis garder en présent à l'esprit l'articulation entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera dans les semaines qui viennent et l'objectif pour le 13 mars. Et puis peut-être je donnerai la parole ensuite à Geneviève qui présentera les choses du point de vue plus général du dispositif national. Je voudrais dire d'abord que donc au niveau de l'INRP, il y a eu la conception et l'accompagnement dans des premières formations de deux parcours, mais que dans l'enjeu de cette formation aujourd'hui et jusqu'au 13 mars, c'est l'idée que des formateurs qui ne sont pas les concepteurs du parcours puissent récupérer ce qui est proposé à partir de la plateforme nationale, à partir d'interactions avec les concepteurs présents, pour mettre en place des formations. Et sur cette proposition de formation, on a contacté des concepteurs qui n'étaient pas initialement dans les équipes INRP. Donc vous êtes plusieurs à avoir répondu. Il y en a qui ont répondu trop tardivement pour qu'on arrive à inclure les personnes dans la formation aujourd'hui. Mais vu le nombre de formateurs non concepteurs présents et le nombre de concepteurs présents, je pense que c'était mieux qu'il n'y ait pas plus de concepteurs, sinon on n'aurait que des concepteurs et pas de formateurs. Et donc, il y a Jean-Philippe Froment là-bas que j'ai repéré. Je pense qu'on prendra 5 minutes pour que vous présentiez rapidement, au moins je vais dire les thèmes et les titres. Et puis il y a Guillaume Mianné et Vincent Maille. J'ai pas repéré qui était qui, mais j'ai repéré qu'il y avait un groupe là. Voilà. Et qui sont aussi venus présenter des parcours qui sont sur les plateformes performance, mais qui n'ont pas été conçus dans le pool, le groupe de concepteurs INRP. Donc ça, c'est important de voir comment on va pouvoir interagir, comment les questions éventuellement vont émerger de façon identique ou au contraire différente vis-à-vis de ces parcours. Donc je vais présenter rapidement. Il y a quelqu'un? Ah oui, non, après peut-être présenter aussi. Alors Benjamin Clerc et Jalil Araki, oui, parce que eux, et par contre, sont dans un parcours, on va dire, étiqueté INRP, si c'est en tout cas qui a été conçu. Et Mireille Sicard qui s'est échappée, voilà, qui est là et qui va revenir tout de suite et qui est aussi conceptrice d'un parcours. C'était des groupes derrière et chaque fois, il y a des représentants. Donc les objectifs de la formation, c'est proposer un accompagnement aux acteurs. Alors on a laissé acteurs en général, avec l'accompagnement pour les concepteurs, parce que l'idée, comme l'a présenté Luc, c'est que quand on est concepteur, qu'on présente les choses et qu'on voit des formateurs s'approprier quelque chose qu'on a conçu, il n'y a aucun doute qu'il y aura une envie de comprendre pourquoi il y a des choses qui sont passées comme on a voulu, pourquoi il y a des choses qui sont passées peut-être de façon différente, non prévue. Et donc l'accompagnement, l'idée, c'est aussi de pouvoir se rencontrer entre concepteurs pour comprendre comment on peut faire évoluer les choses. Mais le cœur de cible, on va dire, de la formation, c'était les formateurs ou les formateurs de formateurs qui vont utiliser ces parcours pour produire des formations. Et aujourd'hui, on n'est que sur des parcours en mathématiques, ce qui peut peut-être aussi expliquer finalement qu'il n'y ait pas tant de personnes, et des parcours pour lesquels il faudrait que les formateurs aient vu des propositions de parcours dans l'EPAF, dans leur académie, et ce n'est pas forcément le cas. Essentiellement, les gens qui sont là, c'est pour des académies pour lesquelles il y a des parcours performance qui ont été présentés au PAF. J'imagine que ça a permis aux gens de se poser la question de qu'est-ce que c'est, et dans les académies où il n'y avait rien, la formation n'est pas forcément passée. Donc les questions posées, c'est comment choisir et prendre en charge un parcours que l'on n'a pas conçu soi-même, et puis comment, quand on produit la formation, faire enrichir le parcours de sa propre expérience. C'est ce qui s'est produit l'année dernière. Les concepteurs de parcours ont déjà mis en œuvre des formations à partir de leur parcours. À quelles conditions un parcours de formation peut-il être un assistant méthodologique et non pas un guide contraignant pour les formateurs? C'est-à-dire, l'idée, c'est que les parcours d'en performance, c'est là pour aider les formateurs à faire les choses, et c'est pas là pour coincer les personnes et les empêcher de mettre en œuvre les choses telles qu'ils voudraient le faire. Mais en tout cas, on est conscient au niveau Eductis que la formation à distance et l'accompagnement à distance, c'est quelque chose de difficile à réussir, et qu'on a besoin d'outils pour les réussir, et ces outils peuvent apparaître parfois comme contraignants. Donc je pense qu'il y aura une discussion sur comment faire en sorte de réussir cet accompagnement à distance. Donc la formation, c'est très important, elle est composée de 2 journées de travail séparées dans l'année et d'un accompagnement des participants entre les 2 journées de travail. Donc la formation, c'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les mois qui viennent jusqu'au 13 mars. Le programme d'aujourd'hui, rapidement, voilà, et puis ce matin, voilà, on fait une ouverture. Le cœur, c'est les 4 ateliers. Les 4 ateliers, le premier est sur la différenciation et l'utilisation de bases d'exercices en ligne. Il est animé par Mireille Sicard, qui est présente. Et en fait, dans chaque atelier, on a marqué « animé » aussi. C'est Brigitte Narvor, qui est présente là au bout de la table et qui est, fait partie de l'équipe de la SDTIS. Donc on était 4 à peu près à avoir un rôle méta, c'est-à-dire pas être des concepteurs, mais être impliqués dans le projet. Et donc on s'est répartis dans les 4 ateliers pour avoir plusieurs regards croisés. Ensuite, dans l'atelier 2, c'est la géométrie dynamique et les travaux pratiques. Donc c'est l'autre parcours conçu par une équipe de l'INRP avec Benjamin Claire, qui est derrière son Macintosh là-bas, et Geneviève Lameule, qui est à mes côtés. L'atelier 3, c'est l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique. Et c'est pas le vrai titre de l'atelier, mais j'ai ajouté entre guillemets Geometrix, parce que finalement, c'est comme ça qu'on va se repérer dans ces différents parcours. Donc, animé par Jean-Philippe Froment et Luc Trouge. Et le dernier, c'est expérimenter avec les TIS en mathématiques, et j'ai mis entre guillemets GeoGebra, parce que c'est aussi un des éléments. Je crois qu'il n'y a pas autre chose que la géométrie dynamique dans cet atelier. Si, ah, alors c'était un peu réducteur de ma part. Donc avec d'autres logiciels aussi, mais j'ai eu mon regard géométrie dynamique qui est rentré, et animé par Vincent Maille et moi-même, enfin, pas forcément animé. Oh là là, j'étais sûre que ce matin j'allais m'en mêler dans les différentes vins. Donc je me rappelle que c'est Guillaume Miané qui va. Je me rappelle bien avoir fait le changement à un moment, mais je sais pas. Et donc, comme il y a plus de concepteurs, on a proposé que les autres concepteurs de parcours participent à d'autres ateliers, justement pour avoir d'autres regards. Et les concepteurs ont tous été et sont tous quasiment des formateurs. Donc ils prendront leur casquette de formateur pour aller s'approprier un autre parcours. Ce qui est très important, c'est que chaque atelier doit déboucher sur la collaboration, l'instauration d'une collaboration entre les différents participants à l'atelier, avec l'objectif d'élaborer une formation et de la faire, de la réaliser effectivement. Alors peut-être pas pour chaque participant à l'atelier, là je vais relâcher un peu la contrainte, mais il faut au moins qu'une formation par atelier soit réalisée. Sinon on perd la réalisation concrète qui donne une vraie profondeur et une vraie dimension à cette formation. Et on va jusqu'au 13 mars, et au 13 mars, on fait le point. Donc les programmes des ateliers, là, voilà, on a donné une structure qui peut apparaître un peu contraignante. Mais c'est toujours pareil, si on veut que les choses arrivent, il faut donner un peu un cadre, quitte à faire bouger le cadre. Mais si on part de rien, en fait, ça devient trop mou. La première phase, ce qui me paraît très important, c'est qu'il y ait une appropriation individuelle des participants. Il y a des salles de formation. En fait, vous êtes tous avec votre portable. Donc chacun a accès à Internet, choisit un parcours dans l'atelier dans lequel il s'est placé. Et pendant 30 minutes, à mon avis 30 minutes c'est bien insuffisant, n'interagit pas avec le concepteur. Le seul truc c'est qu'il faut se loguer sur la plateforme performance, donc on verra que tout le monde y arrive et tout le monde puisse avoir accès. Et explore le parcours lui-même, tout seul, comme s'il était un formateur un soir en se disant « Bon, ben, je vais regarder si je peux faire quelque chose avec les choses qui me sont proposées et j'explore ce qui est sur la plateforme ». J'ai compris, j'ai pas compris, j'ai trouvé des choses intéressantes, je me dis que je vais pouvoir en faire quelque chose. Et dans une deuxième partie, je discute avec le concepteur pour savoir si je peux expliciter des éléments, s'il y a des choses, voilà. Mais je pense que cette première partie, si on veut se mettre dans le bain de ce qui se passera après pour tous les formateurs qu'on espère très nombreux dans les années qui viennent, à utiliser ces parcours, il faut que cette première partie soit un peu individuelle. Donc le concepteur, il attend, il regarde un autre parcours et il fait la même chose. Voilà. Discussion, élaboration d'une mise en œuvre. Ben, je commence à détailler le programme de comment je vois la réalisation des choses. Et chaque formateur rédige un transparent ou un papier qui donne les éléments de la réalisation d'une formation. Comment il a pu passer de ce qu'il a compris sur la plateforme à quelque chose de plus concret. Le 5, c'est l'identification des éléments nécessaires à la mise en œuvre. Et là, je vais dire, c'est une des parties de l'objectif de la formation. C'est tous les formateurs, moi, dans les parcours que j'ai vus, tous les concepteurs ont essayé de se projeter dans une mise en œuvre de leur formation et donner des outils. Mais tous n'ont pas vu les mêmes choses, n'ont pas pensé. Et je pense que là, il y a un très grand intérêt à se retrouver à plusieurs pour voir ce qui a été pensé en commun. C'était très fort dans les groupes INRP de voir que quand tout le monde pensait qu'il fallait quelque chose comme ça, par exemple un calendrier de formation, ça donnait de la force au fait de dire « oui, il faut qu'il y ait ça ». Mais et puis parfois, et aussi dans plusieurs cas, il y avait un groupe qui disait « j'ai pensé à ça » et les autres disaient ben, « moi, j'y ai pas pensé ». Et là, il y avait une discussion pour savoir si c'était vraiment nécessaire ou à quel besoin ça répondait. Donc là, il faut identifier les éléments et c'est là aussi peut-être qu'après, on aura un point de vue plus méta sur la globalisation des parcours. Et au niveau de l'atelier, à la fin de la matinée, il faut que vous ayez rédigé un transparent sur ces éléments-là parce que ça fera partie du début de la discussion de l'après-midi. On pourra rediscuter. Donc cet après-midi, on commence par une heure de discussion sur de quoi un formateur a-t-il besoin pour mettre en œuvre les parcours et comment l'accompagner. À partir des transparents que vous aurez à la fin de la première matinée, et ensuite à partir des éléments de réponse qui ont pu être envisagés au niveau du groupe projet performance à la SDTIS et dont Geneviève parlera. Et puis à la fin, on finira la dernière partie sur la suite des ateliers pour être concrètement en place pour l'interaction ensemble jusqu'au 13 mars. Organiser la collaboration à distance, produire un transparent qui a un point de vue générique. Et on fera le bilan sur quelles sont les formations prévues, quelles sont les équipes qui vont collaborer pour cette formation, quels sont les moyens d'interaction envisagés. Donc je laisse maintenant la parole à Geneviève.
J'y vais, oui. Donc en fait, donc il a été dit que ce projet était une action donc partenariat INRP et SDTIS. Donc je vais de ma place de missionner à la SDTIS pour un mi-temps de mon activité, essayer de donner quelques repères pour que vous situiez ce que vous faites dans le cadre de performance. Ce que j'ai envie de dire, performance, c'est un grand projet, c'est un vaste chantier. Et donc les repères que je me donne pour mieux le comprendre, j'ai envie de vous les faire partager. Donc je crois que c'est d'abord un concept, mot que je mettrai entre guillemets, un programme et un dispositif de formation. Et je vais assez rapidement dire ce que j'entends par chacune des choses. Donc c'est plus qu'un concept, c'est peut-être une marque, c'est sûr, c'est une marque déposée, qui a été élaborée au sein du bureau formation de la SDTIS, qui correspond donc à un projet de formation continue des enseignants, premier et second degré, sur un mode que l'on veut nouveau, puisqu'il s'agit essentiellement de formation collaborative en ligne, qui va s'appuyer sur la construction de parcours et qui vise le développement de l'usage des technologies dans les classes. Ce faisant, vise par la même occasion le développement de compétences donc à l'usage des technologies, notamment les compétences du C2I chez les enseignants et leur entraînement à un travail en réseau. Alors donc c'est aussi un programme. C'est un programme, donc, j'ai dit, initié par le bureau de la formation, qui a le réel souci d'articuler à la fois la dimension nationale et les contextes locaux. Donc, au niveau national, il y a tout un apport, et je vais y revenir tout à l'heure, en termes de définition de l'approche pédagogique, mise en place d'une plateforme, alimentation aux ressources, mais la SDTIS n'a pas vocation à faire, c'est pas un organisme de formation. La mission de la SDTIS, c'est d'impulser des actions de manière à ce qu'elles soient reprises au niveau des académies. Ce qui veut dire un travail en collaboration, pas toujours très lisible aujourd'hui, un travail en collaboration de la SDTIS avec la DGESCO de manière à ce qu'au niveau des académies, la relation se fasse le mieux possible. Donc un programme qui engage un grand nombre d'académies. Alors j'ai pas les chiffres de rentrée, mais ils sont pas très différents. Ça veut dire il y a une quinzaine d'académies qui ont réellement, signé. Il y a des académies qui utilisent des parcours, mais n'ont pas encore passé vraiment convention avec le ministère, sont pas réellement entrées dans le projet. Mais globalement, quand même une quinzaine d'académies donc engagées qui a priori, en 2008-2009, vont avoir des actions dans les plans académiques de formation, premier ou second degré. Donc, le programme performance se met en place avec de nombreux partenaires, des institutions. Donc, le CNDP pour l'approvisionnement en ressources et puis son apport sur les aspects juridiques, les NRP. Donc, vous en voyez une des concrétisations aujourd'hui. Et Luc a évoqué la dimension recherche qui était faite, avec les NRP sur le développement du programme, les UFM. J'ai mis le CNED un peu en italique parce que il a été dans le projet jusqu'à maintenant et pour des raisons essentiellement financières, il semble qu'il soit en phase de désengagement. Et puis des partenaires autres, donc Intel Éducation, qui est à l'origine du projet, qui apporte son soutien notamment pour l'élaboration de la plateforme actuelle et surtout l'élaboration d'une nouvelle plateforme qui sera mise à disposition. Et laboratoire civique qui assure l'évaluation, le suivi des travaux. Alors, le programme performance, on est toujours dans le programme performance au niveau de la SDTIS, ça veut dire trois pôles d'action. Un pôle programme donc qui vise au développement de la politique, un pôle recherche et développement auquel on appartient et qui vise l'animation des réseaux, le développement de l'ingénierie, comme son nom l'indique, et puis un pôle service qui vise l'accompagnement des parcours et l'accompagnement des formations qui se mettent en place. Alors, là, c'est un peu rapidement dit, je veux dire que c'est juste pour vous planter le décor et vous donner envie de retourner voir. Il y a un certain nombre d'explications sur EducNet. Et puis, ce sont des choses dont on aura occasion de reparler dans la phase d'accompagnement entre aujourd'hui et le 13 mars, si vous en avez besoin. Donc, Performance, c'est un programme ambitieux. Je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, puisqu'il se donne donc comme objectif de former 100 000 enseignants à l'horizon 2011. Donc 100 000 enseignants, c'est beaucoup, premier et second degré. Ça veut dire donc qu'il y a une volonté forte d'intégrer un maximum de parcours, d'une part de développer un maximum de parcours, d'où le lancement prochain d'un nouvel appel d'offres pour la création des parcours. Ça veut dire une volonté de dynamiser la formation à partir des parcours au sein des plans académiques. Donc vous voyez bien là l'importance de travailler avec la DGESCO, avec les responsables de l'académie en formation continue dans les académies pour la SDTIS. Et puis d'ouvrir, enfin de favoriser aussi des usages interacadémiques, voire des usages libres. Et donc l'enjeu fort que se donne donc la SDTIS au travers de ce programme, c'est d'accompagner le changement en s'appuyant sur les principes de performance pour les faire vivre à tous les niveaux, que ce soit politique, organisationnel et pédagogique. Enfin, le troisième volet, c'est celui qui nous intéressera le plus et c'est celui sur lequel je pense on aura occasion de discuter et dans la journée et dans l'intersession avant le 13 mars, c'est la dimension formation de performance. Performance, c'est un dispositif de formation. Donc pour la formation continue, pour les publics, donc premier, second degré, et qui vise à permettre aux enseignants d'acquérir des compétences, donc pas perdre de vue cet aspect-là, hein, c'est donc c'est à mettre pour nous en relation avec l'acquisition des compétences C2I, et pour les formateurs et pour les enseignants. On aura l'occasion d'en reparler, et puis bon, développer les habitudes de travail en équipe. Et on peut penser à terme, vous voyez bien la chaîne qui s'établit, à la fois on travaille sur la formation des enseignants pour l'amélioration de la qualité des situations d'apprentissage et des gestes d'enseignement, donc en bout de chaîne, une qualité d'apprentissage des élèves. Oui, il m'a manqué, c'est pas grave, je vais le lire comme ça de mémoire. Il manque ma diable, enfin je comprends pas bien parce que...
Elle est blanche.
Ouais. Et en fait, oui, il manque une... Je l'ai sur mon micro, je ne l'ai pas là. Une des diapos essentielles qui dit les principes sur lesquels se fondent... Mais je les connais bien, donc je vais pouvoir vous les redire. Qui dit les principes fondamentaux sur lesquels précisément s'appuie le dispositif... le dispositif de formation performance... et qui en fait d'ailleurs toute la force et la richesse, c'est donc une formation performance, c'est d'abord une formation action, ça veut dire une formation qui va réellement prendre racine, je dirais, dans le développement d'une activité en classe, et c'est à partir de cette activité en classe que va s'élaborer la formation des enseignants participant aux actions que vous allez conduire. Donc une formation action, c'est une formation qui vise donc une mobilisation collective, si possible collaborative, c'est-à-dire quand on est investi dans une formation performance, on a le souci de son avancée personnelle, bien sûr, mais on a aussi le souci de l'avancée du groupe. C'est-à-dire qu'une formation performance, elle est réussie que si l'ensemble du groupe participant à la formation donc avance dans son développement de compétences. Une dimension extrêmement importante, pas forcément facile à mettre en œuvre au quotidien, mais qui fait la force de performance. Une autre dimension importante... performance donc se veut développer des formations visant une approche par compétences. Donc les compétences, ce qui veut dire que c'est à partir donc de la construction de la séquence en classe que l'on va analyser ce qui s'y passe, comment ça se construit, et que vont être capitalisées les compétences dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans l'usage des technologies, puisque c'est partant de la SDTIS, c'est notre légitimité et première préoccupation. Autre principe extrêmement important par rapport à performance, c'est donc une formation qui est basée sur une approche réflexive. C'est-à-dire pour arriver à prendre en compte son propre développement et capitaliser donc les compétences développées au fur et à mesure de la formation, et pour pouvoir avoir les meilleures interactions possibles avec les autres dans le travail collaboratif, il nous paraît indispensable d'avoir une approche réflexive et de soutenir cette approche réflexive, notamment par des choses que vous connaissez bien, hein, la tenue d'un carnet de bord en formation, un portfolio, enfin, différentes manières, et créer dans le cadre de la formation des occasions de retour sur ces pratiques. Et puis, grand principe de performance, une formation donc qui vise le développement du travail de groupe et la mise en réseau de manière à... Je crois que l'idée forte, c'est de ne pas chacun refaire des mêmes choses dans son coin, mais mutualiser au maximum. Donc voilà, la belle diapo blanche. La formation, donc, à partir de performance, enfin, vous l'avez pour ceux qui... Vous êtes un grand nombre de concepteurs, donc j'ai pas besoin de m'attarder sur le détail de la construction. Elle se fait à partir d'un cadre qui est relativement imposé, puisque un parcours donc se décline en 7 étapes. Et donc, ça a été la ligne de conduite pour les concepteurs. Quand on va réfléchir sur quelle formation vous pouvez monter à partir des parcours, vous allez voir que vous allez être tenu par cette même contrainte des 7 étapes. Bon, je passe, puisque ça, on le reverra en atelier. Je vais conclure donc en réinsistant sur les enjeux. Vous l'avez compris, j'ai affiché un nombre extrêmement important d'enseignants à former. Donc il y a à la fois cette exigence de former en masse, mais néanmoins former de manière qualitative et former en faisant en sorte que cette mise à distance de la formation que l'on va appeler soit une opportunité pour renouveler l'ingénierie de formation et donc au maximum développer des positions d'acteurs, développer pour les formateurs des positions d'accompagnement, et on aura occasion d'y travailler entre maintenant et mars, et voir ensemble comment ces positions d'accompagnement peuvent le plus confortablement s'installer. Je vais terminer en disant que l'année d'expérience que l'on a à la SDTIS nous permet de repérer quelques-uns des facteurs qui initient un peu le début de réussite de ce projet et donc que l'on a envie de continuer à partager avec vous. C'est évident que la réussite de performance, elle passe par une conception, un travail en collaboration. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau qui va être le vôtre et que je sollicite là, mais aussi au niveau politique et au niveau des relations entre le niveau national et le niveau académique. Elle passe par un cadre partagé. Alors la plateforme et la constitution en parcours que je viens d'évoquer est un élément et il est important de le respecter tout en se donnant la souplesse de l'adapter au contexte. La réussite de performance, elle passe donc par cette approche par compétences, par la constitution d'une communauté de pratique, ce à quoi vous allez participer, et par la coopération d'un maximum d'acteurs, d'où l'importance de votre investissement en tant que formateur dans cette opération. Et pour vous accompagner, donc, et en concertation donc avec les NRP, et en complémentarité, vous allez avoir de la part de la SDTIS un certain nombre de personnes à votre disposition, donc Brigitte qui est ici présente, moi-même, et puis Annie Journu qui travaille plus spécialement avec nous sur la formation de formateurs, Claude Bertrand très certainement, et puis l'ensemble de l'équipe performance, quoi. Donc on verra dans la journée comment concrètement cette collaboration peut se jouer.